Bonjour à toutes et à tous, goeiedag allemaal. Bienvenue sur ce podcast du Think Tank Marketing and Sustainability de BAM. Je suis Nicolas Lambert et j'ai le plaisir d'animer ce Think Tank et je serai aussi votre hôte pour ce podcast. Nous avons publié en décembre 2022 un Green Paper qui invitait les marketeurs à garder le développement durable au centre de leurs priorités malgré les nombreuses crises que nous traversons. Met mijn collega Joke Klaassen zullen we 5 podcasts opnemen, waar we de auteurs van de Green Paper wat meer zullen laten vertellen over een artikel en ons zullen inspireren over deze boeiende materie. Notre principe est que les invités parlent leur propre langue, donc l'épisode aujourd'hui sera principalement en français, puisque mes deux invités sont francophones. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Hermanis et Fred Dorsimon.
Donc, bonjour.
Nathalie, Fred, bienvenue dans le podcast.
Merci.
Et est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter?
Tout à fait. Alors, je suis Nathalie, j'ai une carrière de presque 30 ans dans le marketing, dans des secteurs assez différents et variés, le FMCG avec Danone, Spadel, hein, les eaux minérales naturelles, le fast-food avec McDo, les telcos chez Mobistar à l'époque, l'aviation avec Brussels Airlines et depuis 6 ans, je suis dans l'assurance chez AG Insurance. Et depuis 2 ans plus particulièrement, puisque j'ai commencé chez AG en tant que responsable du strategic marketing, de la presse, etc. Mais depuis 2 ans, je suis directeur of sustainability chez AG et AGAS, la maison mère.
Impressionnant. Fred ?
Bonjour, je suis Fred Dorsimon. J'ai un passé en agence, principalement à Londres, et principalement sur des secteurs comme le FMCG et le telco. Et il y a quelques années, j'ai cofondé Beaven. Et chez Beaven, en fait, on est parti du constat qu'en matière de durabilité, la plupart des marques, en fait, peinent à faire changer le comportement des consommateurs et à les faire passer des intentions aux actions. Et donc, c'est pourquoi nous les aidons à comprendre et à changer les comportements pour faire en sorte que leurs programmes ou leurs produits en matière de durabilité soient plus efficaces. Et donc, ça veut dire pratiquement parlant, comprendre les influences conscientes et inconscientes sur les comportements. Ça veut dire développer des programmes qui ont vraiment un impact sur les comportements. Mais ça peut aussi vouloir dire tout simplement prendre un programme existant et aller l'optimiser avec des techniques comportementales. Et on travaille en fait dans des secteurs comme l'alimentation, l'énergie, la mobilité, avec des entités comme WWF, B Corp, Bruxelles Environnement ou encore la STIB.
Ok, génial, merci. Alors Nathalie, on va commencer avec toi. Donc dans le Green Paper, tu nous racontes que pendant la pandémie, AG Insurance, donc la société pour laquelle tu travailles, a choisi de jouer un rôle sociétal à travers sa communication. Et tu as même parlé d'empathie radicale. Tu peux nous en dire plus?
Alors déjà, à la base, un assureur est quelque part durable puisqu'il s'occupe des gens. Donc il est déjà empathique à la base, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que durant le Covid et le fait qu'on ait été contraint à rester chez nous, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas en tant que marque juste passer des messages commerciaux de « live your life to the fullest », profiter de la vie, alors qu'il y avait un climat anxiogène qui touchait tout le monde. Et donc, on a décidé de parler justement de la solitude, qui est un mal qui touche beaucoup de Belges, énormément de Belges de plus en plus, et qui en fait a été un petit peu sensibilisé en chacun d'entre nous du fait qu'on a été contraint de rester chez soi. Il faut s'imaginer les gens qui vivaient seuls, qui ne pouvaient plus voir d'autres personnes durant toute cette période. Et donc l'idée, c'était qu'en tant que marque, on a aussi un rôle sociétal pour, avec nos moyens, pouvoir sensibiliser les gens. On a mis au point une plateforme qui existe toujours. Et depuis, on communique régulièrement sur la santé mentale des gens, la solitude que les gens, dont les gens souffrent. Et pas que les vieilles personnes, il y a énormément de jeunes qui en souffrent aussi. Donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Et quelque part, c'est de l'empathie, du coup, puisqu'il n'y a aucun rôle commercial à cette communication, c'est juste aider les concitoyens belges qui se sentent seuls.
Ok, génial. Donc on voit ici une marque qui va au-delà, hein, qui utilise quelque part l'espace qui est là, l'espace publicitaire, voilà, pour aller au-delà d'un message commercial. Ça revient un petit peu aussi à un sujet que tu as abordé, Fred, puisque tu nous expliques que les marques peuvent aborder la durabilité évidemment à travers leurs produits, hein, en rendant leurs produits plus durables, mais aussi à travers la durabilité participative. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, d'ailleurs, dans l'article, je parlais de ces deux stratégies comme n'étant pas forcément mutuellement exclusives. Et donc, oui, la durabilité à travers le produit, c'est simplement l'idée, ou simplement, en tout cas, c'est l'idée d'améliorer les performances sociales ou environnementales d'un produit, par exemple, en passant à un fournisseur fair trade ou en retravaillant l'emballage pour le rendre recyclable. Et c'est évidemment bien souvent la première approche à laquelle on pense, mais ce n'est pas forcément la seule approche possible. On peut aussi en fait vouloir améliorer en fait son impact en termes de durabilité via la participation des consommateurs. Donc, c'est ce que j'appelais stratégie participative. Et dans ce cas-là, en fait, la marque va encourager l'adoption d'un comportement durable qui est en lien plus ou moins direct avec la catégorie du produit. Et un exemple dont je parle assez souvent, c'est la mayonnaise Hellmann's, qui en fait encourage les gens à réduire leurs déchets alimentaires. Et qui en fait utilise tout son effort marketing pour leur donner non pas simplement des messages, mais aussi des outils pratiques pour que les gens puissent en fait réduire leurs déchets alimentaires, qui, comme vous le savez, en fait a un impact considérable en termes de gaz à effet de serre. Et en fait, c'est une stratégie qui, semble-t-il, en fait répond à une vraie demande parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui se disent: je voudrais pouvoir me comporter de manière plus durable, je sais juste pas comment m'y prendre. Et donc, si les marques en fait peuvent se positionner en coach ou en conseiller, elles ont vraiment un rôle à jouer. Et d'ailleurs, en fait, il y a un consortium qui s'appelle Brands for Good, qui est en fait américain au départ, mais qui est constitué de grandes marques comme L'Oréal, Estée Lauder, etc., etc., qui en fait a identifié toute une série de catégories dans lesquelles les marques pourraient en fait se positionner, des catégories de comportement dans lesquelles les marques pourraient se positionner, comme le fait d'encourager à manger moins de viande, encourager à réduire sa consommation d'énergie, encourager la réutilisation ou la réparation des produits. Et en fait, c'est vraiment des territoires sur lesquels les marques peuvent se positionner et avoir un avantage d'être le first mover et d'occuper l'espace, en fait. Et ce qui est intéressant avec tous ces comportements dont je viens de parler, c'est que non seulement ça permet à la marque d'occuper un nouveau territoire, mais ça aussi, en fait, ça permet aussi, dans le contexte actuel, c'est pas négligeable, de réduire en fait la pression financière sur les ménages parce que ça peut faire réaliser des économies.
Ok, génial. Brands for Good, c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas imaginé hein, quand on a commencé nos carrières. Je ne vais pas dire quand on a commencé nos carrières. Oui. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Et donc, en fait, face aux défis auxquels est confrontée la société, en quoi est-ce que le rôle du marketing a changé?
Mais je pense qu'en tous les cas, s'il n'a pas changé, il doit changer urgemment. Alors moi, personnellement, j'ai fait mon move directrice marketing, directrice sustainability, mais je dirais que même dans le futur, je trouve que les directeurs marketing devraient être tous des directeurs de durabilité parce que c'est ça, d'être future-proof. Alors, je pense que les marketeurs qui veulent intégrer ils doivent intégrer la durabilité dans le mix marketing. Ça veut dire quoi? Mais déjà, comme Fred l'a mentionné, développer des produits qui sont by design sustainable et durable, ça veut dire qu'il faut réfléchir à ne pas lancer des produits avec une obsolescence programmée, hein, on le sait bien, les téléphones, tout le matériel IFI, enfin ce genre de trucs électroménagers, et donc des produits qui peuvent être réparés facilement et à coût raisonnable aussi, parce que quand le coût de réparation est quasi aussi cher qu'un produit neuf, ça n'a aucun sens. Le packaging, Fred l'a aussi mentionné, c'est super important. Moi, j'aime bien la règle des trois RE, hein, le reduce, recycle, reuse. Si les marketeers tiennent compte de ça dans la chaîne de valeur de la production d'un nouveau produit, c'est super important. Et donc, le marketeer, en tant que chef d'orchestre, je dis toujours, il a un rôle pour tout ce qui est supply, R&D, innovation et ce genre de trucs. Et donc, au niveau du produit, il a un rôle fondamental. Au niveau du prix aussi, dans le mix marketing, le prix doit être le juste prix. Et donc, moi, c'est un petit peu contre-intuitif parce que les marketeurs doivent faire vendre et donc ils aiment bien jouer la promotion, hein, des prix très promotionnels. Mais quand on a des billets d'avion Ryanair qui existent encore à 9 euros, j'entendais encore une personne qui me disait qu'il avait fait l'aller-retour en Italie pour 2 fois 9 euros, c'est un scandale parce que c'est évident que le service, en dehors du coût carbone du truc, le service ne vaut pas ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas payés comme ils se doivent dans la chaîne de valeur. Idem pour la baguette, donc le pain français chez Leclerc à quelques centimes. Ça veut dire que les petits producteurs de pain, il y a plein de métiers qui vivent de ça, qui ne sont pas respectés. Donc le juste prix, ça ne veut pas dire spécialement le prix le plus abordable, mais aussi un prix abordable, parce qu'on le voit souvent malheureusement, tout ce qui est durable, hein, le bio, les voitures électriques, ne sont accessibles qu'aux plus aisés d'entre nous. Donc, il y a une complexité par rapport au positionnement prix. Puis, place, hein, distribution, privilégions en tant que marketeer les circuits courts et les moins lourds en carbone pour le fait de distribuer nos produits. Et pour la communication, hein, la promotion, ben là, je pense que le rôle du marketeer, et ça rejoint un peu ce que disait Fred par rapport à ce que disent les gens et ce qu'ils font, le rôle du marketeer dans le pouvoir qu'il a de l'espace média, de sa publicité, de son communication, il a un rôle d'éduquer le marché, à consommer mieux, à consommer différemment. Et donc, quand on met une bonne table avec plein de viande dessus, ben peut-être qu'il faut mettre plein de super légumes, plein de belles choses. Et donc, petit à petit, c'est l'esprit des gens qui va être habitué à ce que le plaisir peut être associé aussi à consommer mieux de façon plus responsable. Donc voilà, je pense que les marketeers doivent intégrer ça dans tout le mix marketing, clairement, dans les 4 P.
Ok, il y en a génial, plus. Super. On reviendra sur cette histoire des 4 P. Fred, je me tourne vers toi maintenant. On parlait justement de l'importance de la communication, de l'éducation, etc. Toi qui es spécialiste des comportements et de l'influence sur les comportements, de comment on peut aider les gens à changer leur comportement, est-ce que l'éducation, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on voit que c'est souvent l'arme la plus importante qui est dégainée en général quand on veut changer les comportements. Et est-ce que cette arme est suffisante, en fait?
Oui, alors c'est marrant parce qu'en fait, s'il y a bien une question qu'on me pose quand on parle de changement de comportement, c'est est-ce que la sensibilisation, en fait, est suffisante ou pas? Et en général, je réponds ceci, c'est que la sensibilisation, c'est probablement un des termes les plus surutilisés quand on parle de marketing par rapport à la durabilité. C'est aussi, en fait, selon la science, une des stratégies les moins efficaces pour changer les comportements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sensibiliser, mais ce n'est pas souvent suffisant en tant que tel comme réponse pour faire changer les comportements, mais même si ça peut s'inscrire dans un programme plus large où on sensibilise, mais on fait aussi d'autres choses, comme par exemple fournir des outils pratiques aux gens. Parce qu'en fait, dans beaucoup de situations, les gens savent très bien déjà ce qu'il faudrait faire. On sait déjà qu'on devrait moins rouler en voiture, manger moins de viande rouge, prendre moins l'avion, etc., etc. On n'a juste pas envie de le faire ou on ne le fait pas pour d'autres raisons. Pour prendre un exemple pratique, on était en conversation il n'y a pas longtemps avec L'Oréal. Et L'Oréal, évidemment, est un gros consommateur de plastique, notamment les bouteilles de shampoing. Et donc, un de leurs défis, c'est comment on fait en sorte que les gens achètent moins de bouteilles et passent à des recharges à la place. Ils ont lancé, dans des marchés comme la France, ils ont lancé des shampoings qui existent aussi en recharge. Et ils ont fait de la communication par rapport à ça. Et ça tombe à plat, ça ne fonctionne pas très, très bien. Du coup, on a une discussion avec eux pour essayer de comprendre quel pourrait être il est où le problème. Est-ce que c'est un problème de sensibilisation ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, quand on gratte, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de barrières en fait très pratiques et concrètes qui font en sorte que les gens ne passent pas à l'action. Par exemple, les gens oublient de garder la bouteille à la maison telle qu'elle est quand elle est finie, ou bien le refil, c'est le fait de remplir, c'est perçu comme étant un effort trop important et puis ça dégouline de partout et c'est compliqué. Ou bien il y a aussi une perception que finalement il n'y a pas de grande différence de prix entre les deux, donc pourquoi je m'embêterais en fait à acheter une recharge plutôt que la bouteille. Et donc là, typiquement, les gens étant informés, ils sont au courant de l'option, mais c'est d'autres raisons qui font qu'en fait, qu'ils ne passent pas à l'action. Et donc, c'est tout ça pour dire que c'est au bout du compte, avant de décider qu'il faut sensibiliser, c'est hyper important de comprendre en fait le contexte dans lequel on est. Quels sont les points bloquants? Qu'est-ce qui font que les gens ne passent pas à l'action aujourd'hui? Si c'est juste un manque de connaissances, alors, bah oui, très chouette, sensibilisons, mais peut-être que le problème est ailleurs. Et ça permet ensuite de mettre en place un plan plus complet dans lequel il y a, oui ou non, peut-être de la sensibilisation.
Et je pense que ce qui est très important, si je peux rebondir là-dessus, par exemple, tu prenais l'exemple des bouteilles de shampoing. Le packaging a tellement fait ses preuves dans le passé. Enfin, c'est des beaux packaging, c'est des beaux objets, c'est comme les bouteilles de parfum. Et donc, si la recharge est très sommaire et paraît moins qualitative, on sait l'impact du packaging. Quelque part, soit ils doivent revoir leur packaging actuel et le rendre plus sommaire comme l'alternative, parce que sinon, tu as l'idée de sacrifice. Et typiquement, pour les cas pour les femmes qui ont des beaux cheveux, le shampoing est quand même un produit de luxe d'une certaine manière. Ce n'est pas juste un savon. Et donc, je pense que tu as la perception de différence de packaging qui fait que tu fais un sacrifice et que c'est peut-être moins bon du coup.
Oui, et puis il y a aussi des techniques comme L'Oréal a toujours eu l'habitude d'utiliser des modèles ou des personnalités très oui. connues pour promouvoir leurs produits. On pourrait aussi imaginer que les recharges sont vraiment plus centrales dans la communication et par exemple dans les pubs, et d'avoir Hélène Mirren ou XYZ qui va en fait vraiment démontrer le comportement dans un spot télé où elle utilise une recharge plutôt que la bouteille.
Tout à fait.
Donc, ils ont toute une série de techniques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et ils n'utilisent pas ça aujourd'hui, mais le potentiel est là,
ouais,
clairement.
Ouais. Ouais.
Donc, ce qu'on voit quand je vous entends, c'est que les professionnels du marketing, finalement, ils vont devoir apprendre des nouvelles techniques. Ils vont devoir élargir quelque part un peu leurs horizons. Alors, on connaît tous les fameux 4P du marketing, tu nous en as parlé. Mais j'ai lu dans ton article qu'il y en avait 7 maintenant. Alors, moi, je connais les 4 que tu as mentionnés. Mais apparemment, il y en a 7. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai parlé du produit, place, prix, promotion. Un qui est très important, c'est évidemment le profit, un profit d'essence qu'on veut dire aussi. Moi, j'aime bien, je préfère prospérité. Pourquoi c'est important, surtout dans le cas de la durabilité? Parce que souvent, on entend, enfin, en tous les cas avant, c'était soit on fait de l'argent des capitalistes et c'est un peu vadé rétro satanas pour toute la cause écologique, plutôt dans la sobriété, ce genre de choses. Mais non, en fait, une entreprise, c'est normal qu'elle fasse du profit. Il doit être décent, on est bien d'accord. Il doit être bien réparti, bien repartagé, acquis de droit. Mais il doit être présent parce que l'entreprise, elle doit payer ses travailleurs. C'est des familles qui peuvent vivre de ça. Et parce que pour être durable, une entreprise doit être profitable. Et donc, moi, je reste persuadée, bon, je fais Solvay aussi, hein, je suis une business girl, donc je reste persuadée qu'il est sain d'avoir un profit décent. Après, parfois, il est peut-être parfois indécent. Et donc, à voir comment il est repartagé. Donc, le profit. Et puis alors, les deux autres P, ben, c'est la planète et people, hein, les gens. En fait, le rôle des marketeers et aussi de tout l'écosystème autour des marketeers, hein, donc les agences de pub, les médias, la communication, les RP. Comme je le disais, c'est crucial pour éduquer, informer et donc vraiment sensibiliser, j'allais dire. Mais le comportement pour que les gens aient un comportement différent dans une direction qui est respectueuse de la planète et des personnes. Parce que, et ça j'aime à le dire, comme je travaille pas mal sur tout ce qui est ESG, hein, environnement, social, gouvernance, il y a très souvent une tension entre le E et le S. Si on travaille très fortement sur le climat a un coût, c'est inévitable, hein, c'est vastement. Et malheureusement, c'est souvent aux dépens du coût du S, du social. Et donc, c'est très complexe. Et donc, les marketeurs ont un rôle là-dedans pour éduquer, mais de façon positive et constructive. Parce que, par exemple, moi, je ne suis pas du tout adepte de l'écologie punitive qui dit qu'on doit tous se sacrifier, que tout va être... Enfin, voilà. Donc, on peut continuer à être heureux, mais différemment, en fait.
Voilà. Tout à fait. OK, ça, on peut compter sur les marketeurs en général.
Oui.
Pour créer des vibes positives autour des choses. Mais c'est vrai que c'est important. Il y a une notion qui est complexe, hein, quand on en discute avec les marketeurs, c'est la notion de décroissance, en fait. Parce que c'est vrai que c'est, alors, les gens on est tous à peu près de la même génération ici autour de la table, ben nous on a été quelque part brainwashed à cette idée de croissance, 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 hein, c'était vraiment le mot-clé de nos carrières, etc. Et puis maintenant on nous parle de décroissance. Donc c'est un peu une dissonance cognitive quelque part pour nous en tant que marketeur. Comment vous positionnez là-dessus? On peut peut-être commencer par Nathalie.
Oui. Alors moi, évidemment, comme tu le dis, en tant que marketeer, les marketeers, ils doivent augmenter les ventes, gagner des parts de marché, double-digit growth par quarter. Donc, il y a cette espèce de délivrer, de donner des résultats. Voilà. Je pense que... Alors moi, je n'affectionne pas particulièrement le mot décroissance. Je dis même en dehors du marketing. Parce que je trouve que ça induit un peu un côté péjoratif. Je pense juste que ce n'est pas une croissance à tout prix, hein, parce que si elle inclut les notions de people, planète, ou comme le disait Fred en début, aussi l'aspect social, ce genre de choses, on peut continuer à croître, mais différemment. Et j'aime beaucoup le terme que toi, Nicolas, un jour, tu as évoqué lors d'un de nos think tanks, hein, parce que chez BAM, on a un think tank sur la sustainability dont on fait partie, on échange beaucoup, tu as évoqué le mot d'altercroissance, parce qu'on discutait entre nous, tu en avais certains qui étaient plutôt sur la sobriété, la décroissance, d'autres pas, comme moi, et donc altercroissance, je trouve ça très juste, parce que ça induit une croissance, mais différente. Moi, personnellement, je crois encore au progrès, à l'innovation, à la créativité, à la curiosité de l'humain qui va faire en sorte qu'on va y arriver, et qu'on va répondre à ce nouveau paradigme de marché. Donc, moi, j'y crois à fond. Donc, je ne crois pas à la décroissance. Je crois à une consommation différente, plus responsable et respectueuse de la planète et des gens, mais en tenant compte de cette tension entre le E et le S, hein, environnement et social. Mais je pense que Fred a une notion différente des choses, peut-être.
Différente et similaire, j'imagine. au bout du compte, en fait, le marketing, ce n'est qu'un outil. Hein. Donc, Nathalie parlait d'innovation et de progrès. Ce sont aussi des outils. Et en fait, ça, tout dépend de ce qu'on en fait, comment on les utilise. On peut très bien utiliser le marketing pour la croissance ou pour contre la croissance. Et on peut très bien utiliser le marketing pour ou contre la décroissance. Hein, on peut l'utiliser pour vendre des SUV à essence ou des vélos électriques. Mais il est vrai que traditionnellement, le marketing a été en fait un des trois grands piliers de la société de consommation. Hein. Les deux autres étant l'obsolescence programmée et puis le crédit et la consommation. Et ces trois éléments-là ensemble ont fait que la société en fait s'est développée telle que on la connaît aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie par l'Institut Veblen en France et qui montrait que sur les 20-30 dernières années, le marketing, ils avaient été capables d'identifier la contribution spécifique du marketing et de la pub qui représentait en fait selon eux en fait un supplément de 5% de croissance durant cette période-là. Mais ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que du coup, les ménages ont dû travailler 6% de plus pour pouvoir se payer en fait la consommation qui va avec ça. Et donc, pour moi, quand on parle de marketing et de décroissance, il y a une question à se poser qui est de quel type de société parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on souhaite pour notre futur ? Et du coup, c'est quoi le rôle du marketing dans ce contexte-là ? Un des gros problèmes, me semble-t-il, c'est qu'en fait, on a tendance à généraliser en fait, toutes ces discussions parce qu'au bout du compte, il y a des secteurs qui doivent continuer à croire, tous les produits et services durables, toutes les améliorations vertes qui sont portées sur le marché. Et donc, il faut, comme Nathalie le disait, de l'innovation, du progrès, etc. Il faut absolument continuer à pousser ça. Et le marketing est un pilier fondamental de ça. À l'inverse, il y a des secteurs qui doivent ou qui devraient décroître, comme par exemple les carburants fossiles ou les voitures à essence. Et donc, on va se retrouver avec... Je pense que c'est difficile, mais c'est même délicat d'apporter une réponse générique. Moi, je l'imaginais, en fait, quand je pense à ça, je l'imagine comme une sorte de curseur. On a en fait d'un côté le marketing de la surconsommation ou des produits non durables. On a au milieu quelque part en fait le fait de promouvoir des offres plus durables. Et on a en fait à l'autre bout du curseur, on a en fait le marketing de la simplicité ou de l'altercroissance. Et mon idée, c'est qu'on doit faire beaucoup moins du premier et davantage en fait des deux autres. Et donc pour moi, ça représente en fait trois, quatre rôles spécifiques en fait pour le marketing. Il y a un rôle qui est en fait de faire en sorte qu'on développe effectivement des offres et des produits durables sur base de tous les critères, labels, etc. qui existent. Ça, c'est fondamental. L'offre marketing est au cœur de la discussion. Il faut, on en parlait beaucoup d'ailleurs dans le think tank récemment, il faut rendre en fait la simplicité, sobriété. Je suis assez d'accord avec Nathalie, c'est un terme qui est un peu pauvre et pas intéressant.
Engageant, en tout cas.
Je vais utiliser la simplicité à la place, mais il faut rendre en fait un monde comme ça sexy, attrayant, et donner envie aux gens d'aller vers ça. Et pourquoi pas, peut-être qu'il y a un boulot pour le marketing de ringardiser en fait les usages non durables.
Tout à fait, pour la communication, oui.
Mais oui, il y a une étude de la University College London qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montrait qu'il y avait en fait un lien au sein d'une population d'hommes âgés entre la taille de la voiture et inversement, la taille du pénis. Donc c'est intéressant, on pourrait jouer en fait sur ce genre de choses. Mais donc, je pense qu'il y a un travail de rendre le durable sexy, mais ça peut être aussi en fait à l'inverse, rendre le non durable ringard et passé. Et puis alors évidemment, de mon point de vue comportemental, je crois qu'il y a un vrai travail de donner les outils aux gens et pas simplement des messages pour que les gens passent à l'action et passent des intentions à l'action. Parce que je crois que c'est un chiffre dont j'ai parlé avec vous il n'y a pas longtemps. La contribution quantifiée du changement de comportement, elle est connue aujourd'hui. On parle quand même de 62% si on parle d'émissions, de réduction d'émissions. 62% qui sont d'une part 10% grosso modo, qui viennent du fait de faire des économies. Hein. Je diminue le chauffage, je mets un pull à la place, etc. Et 50%, c'est tout ce qu'on appelle les comportements d'adoption, comme par exemple faire en sorte que les gens passent à un véhicule électrique, qui en fait est une solution technologique. Hein. C'est une voiture A plutôt qu'une voiture B. Mais il y a toute une dimension de changement de comportement qui s'inscrit là-dedans.
Mais c'est pour rebondir, ce qui est très compliqué... si tu parles par exemple du secteur automobile ou de l'aviation, c'est des secteurs qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Tu as énormément de gens qui travaillent dans ces secteurs. Donc, à nouveau, est-ce qu'on va mettre ces millions de personnes au chômage ? Enfin, hein ? Et donc, je pense, et en plus, tu as des millions de consommateurs qui adorent, comme tu le dis, rouler en voiture et voyager, prendre l'avion. Donc, je pense que tu disais les trois étapes. Là.
Oui.
Voilà. Je pense qu'il y a aussi ces secteurs qui sont compliqués, qui sont très émetteurs de CO2, mais qu'on doit accompagner dans leur transition. Parce que c'est utopique de penser que demain, il n'y aura plus de voitures. Et d'ailleurs, les voitures électriques c'est pas la solution, hein. C'est une des alternatives un peu moins, mais ça reste polluant, hein, on le sait tous. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ces marketeurs? Parce qu'on disait l'altercroissance, ok, aujourd'hui, dans la plupart des compagnies, les KPIs des marketeurs, ça reste la croissance et l'augmentation des parts de marché et le profit. Donc, comment on accompagne? Et c'est là qu'il y a un gros challenge, je pense, pour nos collègues marketeurs qui travaillent dans ce genre de secteur. Comment on accompagne leur transition, en fait?
Oui, c'est intéressant parce que du coup, ça, y a un rôle qui, enfin, une partie du boulot peut être fait au sein du secteur du marketing, mais il y a aussi en fait une partie du boulot qui est beaucoup plus large. Quel type de société on veut être et les notions de profit, etc., sont aussi beaucoup plus larges que le marketing.
Oui, et là, je pense que le rôle du public, des politiques, est énorme. Hein.
Enfin, tout à fait. Rôle public, société civile, des citoyens, et aussi, je pense, pouvoir faire face à ces défis, pouvoir comprendre effectivement que c'est du changement. Le changement, c'est toujours compliqué. L'être humain n'est pas, c'est pas, n'a pas dans sa nature de changer. Et donc, je crois que de nouveau, hein, en tant que professionnel du marketing, il y a une notion d'empathie pour comprendre, oui, en fait, la situation dans laquelle sont les différents acteurs et pouvoir les accompagner.
Et en fait, on n'a pas changé.
Dans ce changement.
On n'a pas changé quand c'est pour un moins bien. Exactement. Et c'est là où comment positionner ce changement, de montrer que c'est quand même équivalent ou mieux d'une autre manière.
Oui, absolument, oui. Tout à fait,
complètement.
Oui. Donc, du pain sur la planche, n'est-ce pas, pour le secteur. Alors, deux petites questions pour tout doucement, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une marque qui vous inspire à travers ce qu'elle fait? Alors, aucune marque, aucune entreprise n'est parfaite, évidemment. Mais est-ce qu'il y a une marque que vous aimeriez citer en exemple? Commencez par Fred cette fois-ci.
Oui, ben moi je reviens tout d'abord sur Hellmann's parce que c'est intéressant. Ils n'ont pas du tout reformulé leur produit ou la manière de le mettre sur le marché. Mais en fait, il est tout à fait possible que, vu l'importance de la réduction des déchets alimentaires qui diminue la production de méthane, qui diminue les gaz à effet de serre, il est tout à fait possible, je n'ai pas les chiffres, mais il est tout à fait possible qu'en fait que leur impact est supérieur en fonctionnant comme ça, que s'ils avaient simplement concentré leurs efforts sur le fait de reformuler en fait le produit ou la production du produit. Et ce qui est intéressant surtout, c'est la manière, c'est le comment ils l'ont fait. Ils n'ont pas en fait lancé le programme avec un peu de com et puis c'était terminé. Ils ont vraiment en fait pris le temps de tester en fait le programme au sein d'un certain nombre de ménages. Ils ont analysé quelles sont les barrières qui font que les gens ne le font pas correctement. Ils ont ensuite identifié des solutions comportementales qui sont testées sur le terrain. Et donc, il y a un vrai travail en fait, de rigueur en fait, derrière le programme. Et c'est comme ça que, par exemple, ils ont compris qu'il ne fallait pas parler de gaspillage alimentaire. Il fallait plutôt parler d'économie de nourriture, d'économie d'argent ou d'économie de temps. C'est comme ça qu'ils ont identifié que le problème, c'était en fait le fait d'avoir besoin d'apporter aux gens de la simplicité. Et donc, une des techniques qu'ils ont mis en place, c'est la technique du 3+1. Où en fait, ils disaient aux gens, prenez trois ingrédients plus un petit ingrédient extra dans votre frigo. Et en fait, sur base d'une application mobile, on regarde, voilà, dans mon frigo, il me reste des œufs, du pain, du poisson et des olives, par exemple. Et il te sort en fait une série de recettes par rapport à ça. Et donc, ils ont vraiment rendu en fait le comportement très simple et orienté bénéfice pour les gens. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont l'ambition de le déployer. Mais même au-delà en fait de Hellmann's, nous, on a eu beaucoup de discussions ces derniers temps. On sent bien qu'en fait, les marques sont en train de chercher à se positionner sur quel rôle je peux jouer en termes de comportement durable. Et donc, c'est très souvent sur base de une ou deux questions similaires, à savoir, je me rends compte que ce que déclarent mes consommateurs dans mes enquêtes en fait, ne se traduit pas dans la réalité, ou bien je me rends compte que mes efforts de sensibilisation ne portent pas leurs fruits, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, on sent qu'il y a de plus en plus de marques qui essayent de trouver une solution par rapport à ça. C'est par exemple un Vandenborre qui va se dire comment je fais en sorte que les gens en fait viennent vraiment rapporter leurs appareils pour réparer. J'ai cité l'exemple de L'Oréal tout à l'heure. Et donc c'est voilà, je pense que le bon exemple c'est aussi en fait toutes ces marques qui de plus en plus essayent de trouver un rôle pour elles-mêmes dans ce contexte-là.
Voilà, donc même quand on voit un produit aussi apparemment banal que de la mayonnaise, il y a moyen de faire des choses extrêmement intéressantes.
Je trouve ça brillant comme exemple. Et juste pour rebondir dans les drivers de changement de comportement, le portefeuille des gens est clé. On l'a vu, crise énergétique, c'est la seule fois, c'est parce que ça coûtait plus cher aux gens qu'ils ont cet hiver baissé leur chauffage, passé à 18 degrés. Et du coup, ça devient, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si terrible que ça. Donc selon moi, ça c'est un des grands drivers. Alors moi, mon exemple, Une marque que j'affectionne en tant que marketeer très fort, c'est IKEA, évidemment. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Anne-Clotilde qui nous écoutera certainement. Pourquoi ? Parce que IKEA, au départ, ben, c'est du retail, c'est des meubles accessibles à tous. Et donc, quelque part, c'est le prototype de la surconsommation. Hein, si on se il y a 15 ans, un peu comme Ryanair qui au départ, avait ouvert en fait, le fait de voyager à tous, rendre le voyage accessible à tous. Si on enlève l'empreinte carbone, c'était pas mal, on va dire ça comme ça. IKEA, c'est un peu la même chose. Donc, oups, j'ai une petite griffe dans ma table qui ne coûte pas très cher, je la remplace. Vraiment, voilà. Eh bien, ils ont quand même eu le courage de remettre de se remettre en question par rapport à ce côté durable de surconsommation. Et donc, ils ont revu leur modèle en lançant des ateliers de réparation et de reprise aussi pour les produits en deuxième main, de les reprendre et de les vendre en deuxième main. Alors, ça paraît anodin, mais pour une marque comme ça, il faut prévoir de la place, des gens, c'est un autre métier, c'est d'autres process. Et donc, je trouve qu'ils sont, malgré leur empreinte qui doit être conséquente, ils osent, avec leur taille, se remettre en question fondamentalement. Et du coup, c'est authentique. Et donc, je trouve que c'est un très bel exemple de pouvoir montrer que tout un secteur, même s'il est grand, mais il peut amorcer un changement. Et donc, je trouve que c'est un exemple à...
On avait un exemple un peu similaire avec Decathlon.
Oui, tout à fait.
On a vraiment une révolution au niveau du business model. Ce serait intéressant de voir avec le temps la place que vont prendre ces nouveaux business models dans le total...
Par rapport à la profitabilité.
Dans le total des ventes. Mais c'est intéressant de voir d'aussi grandes entreprises qui, a priori, sont très rentables avec leur business model actuel, investissent dans des business models alternatifs.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elles montrent aussi le chemin. C'est des marques qui sont tellement emblématiques qu'elles montrent aussi le chemin.
Lead by example, oui, absolument. Oui.
Ouais. Alors, peut-être pour terminer, comme dernière question, si vous aviez un conseil à donner aux marketeurs, aux gens de la profession, pour peut-être être une force positive au niveau de la société. Quel conseil est-ce que vous donneriez, Nathalie ?
Alors moi, je dirais, ben, oser penser out of the box, évidemment. Innover, faire rêver, communiquer, même les petites étapes, parce que le lead by example, c'est important. Enthousiasmer et pour inciter les gens en fait, vers la transition naturelle, vers un monde plus durable.
Moi, je compléterais ça en disant qu'il faut se former. En fait, il y a aujourd'hui ma perception, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de monde, c'est que le niveau de connaissance par rapport à la durabilité et à la transition écologique au sein du monde du marketing est quand même encore beaucoup trop faible. Or, ça devient quand même absolument central et stratégique au sein de la société. Et un des rôles du marketing, c'est tout de même de comprendre la société dans laquelle on évolue et trouver son rôle en fait dans cette société. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a en fait toute une série de contenus pour différents niveaux. De contenu de formation qui existe. Et donc, c'est très facile aujourd'hui de se former sur ces sujets-là, notamment les efforts de BAM. Hein, Nathalie parlait tout à l'heure du think tank. Bon, BAM, il y a un groupe durabilité sur LinkedIn sur lequel on partage toute une série
absolument.
De contenus. C'est peut-être un point de départ, mais il y en a tout plein d'autres. Mais surtout, formez-vous par rapport à ces enjeux-là. C'est absolument crucial. Et d'autant plus pour les gens qui viennent de rejoindre, les jeunes qui viennent de rejoindre le secteur, ça va devenir, en fait, le marketing va évoluer vers la durabilité ou en tout cas va être quelque part là au milieu entre ces deux notions-là. Et donc, c'est important de pouvoir opérer sur ces sujets-là.
Mais pour les plus âgés d'entre nous aussi, hein, moi j'ai suivi la formation à Cambridge sur la durabilité. J'ai repris mes études et puis voilà. Oui, nous, c'est important.
Faites comme Nathalie.
Voilà, ouvrez, mais c'est formidable parce que ça ouvre plein d'autres horizons et plein de choses extrêmement passionnantes. Merci à vous deux pour tout ce que vous nous avez partagé. Merci aussi à l'équipe de BAM pour l'organisation. Alors, il va y avoir 4 autres épisodes, donc n'hésitez pas à les écouter. N'hésitez pas à consulter notre green paper qui est toujours accessible sur le site de BAM, marketing.be. Et puis voilà, merci et puis à un prochain épisode.
Merci beaucoup.
Au revoir.